Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous Henri Francisco, 13h à Conakry, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. En Afrique du Sud, le parti ANC au pouvoir a décidé aujourd'hui de rappeler Jacob Zuma de son poste de chef de l'État, selon la chaîne de télévision sud-africaine SABC. Autrement dit, l'ANC lui ordonne en tant que membre du parti de démissionner de la présidence. Jacques Aristide.
Jusqu'ici, pas de réaction de Jacob Zuma. Le président n'est toutefois pas obligé d'accepter cette décision. Dans ce cas, l'ANC peut alors présenter devant le Parlement une motion de défiance. Ce texte peut être adopté à la majorité absolue des 400 députés et contraindrait Jacob Zuma à partir. La chaîne SABC rapporte que le parti a décidé de donner 48 heures au président Zuma pour qu'il la démissionne de ses fonctions. Le président de l'ANC, Cyril Ramaphosa, a quitté hier soir une réunion marathon du Conseil national exécutif du parti pour informer Jacob Zuma de la décision. Toujours selon SABC, la réunion qui se déroulait dans un hôtel de Pretoria a duré 8 heures.
En RDC, plus de 22 000 personnes fuyant les violences dans l'est du pays ont traversé le lac Albert la semaine dernière pour rejoindre l'Ouganda en quête de sécurité. C'est ce qu'annonce le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés à Serre ce mardi, en notant que 4 réfugiés congolais sont morts noyés. Des milliers d'autres candidats au départ sont rassemblés sur les rives du lac en attendant de pouvoir effectuer la traversée. Les intéressés fuient depuis décembre la reprise des violences intercommunautaires et des affrontements entre groupes armés et les forces armées congolaises dans la province de l'Ituri, a expliqué à l'AFP Katerina Kitidi, porte-parole du ACR. Madame Kitidi a précisé qu'au total, 39 000 Congolais ont fui vers l'Ouganda depuis le 19 décembre, dont environ 34 000 depuis janvier. RDC toujours, les États-Unis sont opposés au recours à un système électronique de vote dans le pays. Washington l'a fait savoir lors d'une réunion à New York sur le processus électoral dans le pays. Un scrutin présidentiel ainsi que des élections législatives et provinciales y sont prévues le 23 décembre. Abdourahman Dia.
Nous sommes très préoccupés de voir l'insistance de la Commission électorale indépendante à vouloir utiliser un système électronique de vote, a affirmé Nikki Haley, la représentante américaine à l'ONU. Elle a ajouté que les États-Unis souhaitaient des bulletins de papier pour qu'il n'y ait pas de doute sur le résultat. Corneille Nangaa, président de la CENI, venu à New York pour cette réunion informelle, a rappelé que plus de 45 millions d'électeurs ont été recensés pour quelque 90 000 bureaux de vote. Selon lui, la machine à voter permet de réduire de moitié le poids des matériels à déployer et aussi fera baisser les coûts. La Côte d'Ivoire, représentée à cette réunion, a mis en garde contre le risque d'élections mal préparées. Les Pays-Bas ont dit respecter la décision de la CENI en lui demandant de tester rigoureusement le matériel avant les scrutins.
La communauté internationale célèbre ce mardi la Journée mondiale de la radio, édition 2018. Au Tchad, la situation des radios privées est plutôt inquiétante. Elles sont menacées de fermeture et souvent en reportage, les journalistes font l'objet d'agressions de la part des services de sécurité, nous dit notre correspondant à N'Djamena, André Kodmanjingar.
Au Tchad, les organisations professionnelles de médias célèbrent cette journée avec beaucoup de difficultés. En moins de 2 mois, plusieurs radios privées, associatives, communautaires et commerciales ont eu des ennuis avec les autorités administratives et celles en charge de régulation. Mekondo Souni est le président de l'Union des radios privées du Tchad.
D'abord, la radio FM Nada de Mundu, dans la région du Logone occidental, suspendue par le Haut Conseil de la communication, la ICC. Le 30 janvier 2018, c'est le tour de la radio Takadi de Bodo, dans la région du Logone oriental, d'être fermé par le préfet. Le 9 février dernier, la radio Bargadie de Kélo a été fermée par le préfet. Mais bien avant cela, la radio Terre Nouvelle de Bongor, dans la région du Mayekebi-Est, a eu des ennuis avec les autorités locales par rapport au traitement de l'information.
Pour le président du Haut Conseil de la communication, Dieudonné Djounabaï, non seulement ces radios ont violé leur cahier de charge, mais les journalistes qui travaillent dans ces médias font de l'amalgame.
La radio Bargadie a des problèmes parce qu'elle n'a pas informé le préfet de la Tandjilé-Ouest qu'elle est en partenariat avec avec RFI. Il en est de même à la radio Dakar. Radio Nada, l'État a institué 3 jours de deuil national. Radio Nada a refusé de se soumettre. Et c'est la CC qui a pris la décision d'arrêter le signal de Radio Nada pour 7 jours. Les radios sont-elles au-dessus de la loi? Les radios n'ont pas de problème. C'est les journalistes qui travaillent dans ces radios qui se prennent pour des militants. Ou vous êtes journaliste, ou vous êtes militant d'un parti politique, ou vous êtes militant de droits de l'homme.
Plusieurs journalistes des médias privés à la recherche de l'information sont soit éconduits, interpellés ou soit bastonnés par le service de sécurité. Le président de l'Union des journalistes tchadiens, Belgar Larmin Laguerre, dénonce cette pratique.
Je ne serais pas content quand on me dit qu'un journaliste a été tabassé pendant l'exercice de ses fonctions. C'est inadmissible. Malheureusement, c'est ce que nous vivons ces derniers temps. Je crois qu'une prise de conscience au niveau de l'ensemble des journalistes s'impose.
Le président du Haut Conseil de la communication conseille aux journalistes d'être prudents en ce temps de crise. Dieudonné Dionabaï.
En situation de conflit, il faut que les journalistes prennent leur disposition. Que vos organes de presse vous achètent des gilets. Quand vous partez, c'est écrit là, gros presse. Mais si vous allez dans la tenue comme les manifestants, c'est pas écrit sur notre front, journaliste. Quand vous allez en reportage, on paye votre assurance. Vous n'êtes même pas inscrit à la CNPS.
À l'occasion de cette journée, le patron des radios privées du Tchad, Mekondo Souni, demande aux autorités locales de ne pas s'immixer dans les prérogatives du Haut Conseil de la communication pour arrêter les journalistes ou fermer les radios privées installées dans les circonscriptions administratives. André Kodumadingar Ndiamena, VO Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au moins 2 jeunes hommes tués dans des heurts lundi entre manifestants et forces de l'ordre en Guinée, où avaient lieu simultanément des protestations liées aux résultats des élections locales du 4 février et à la reprise d'une grève des enseignants. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara.
L'une des victimes est décédée des suites d'une blessure par balle, la seconde dans un accident de la circulation dans des circonstances qui restent à déterminer, précise le gouvernement guinéen dans un communiqué. Le gouvernement qui regrette ces violences dans la capitale. Depuis le scrutin du 4 février, le pays a renoué avec des violences post-électorales provoquées par des contestations des résultats des élections locales. De nouvelles violences ont éclaté lundi dans la commune de Ratoma, dans la banlieue de Conakry, causant une perturbation de la circulation. Des pneus brûlés et des barricades ont obligé les forces de l'ordre à intervenir, mais elles ont été repoussées par des jets de pierre. Le gouvernement se dit disponible pour toutes les revendications légitimes exprimées dans le cadre légal du dialogue social. Il invite l'ensemble des acteurs du système éducatif à privilégier l'intérêt supérieur des élèves, mais qualifie de dissidents les syndicalistes à l'origine de la grève des enseignants. La grève déclenchée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée avec à sa tête le contesté Aboubakar Souma vise l'augmentation des salaires des enseignants. Elle a été largement suivie dans la capitale. Conakry, Zakaria Kamara, VO Afrique.
Au Nigeria, 15 ans de prison pour un des ravisseurs des lycéennes de Chibok. Haruna Yahaya, 35 ans, est handicapé avec un bras paralysé et une jambe déformée. Il a plaidé coupable et sollicité la clémence du tribunal. Des centaines de membres présumés du groupe djihadiste nigérian Boko Haram ont commencé à comparaître lundi devant un tribunal installé dans une base militaire à Kanji, au centre du pays, pour déterminer s'ils seront condamnés, innocentés ou envoyés dans des centres de réhabilitation. Actualité aux États-Unis, le Sénat américain s'est attaqué lundi à une grande loi sur l'immigration qui doit être adoptée avant l'expiration de l'ultimatum du 5 mars lancé par le président Donald Trump. C'est un débat sensible marqué par une extrême polarisation entre républicains et démocrates. Bagassi Kora.
Des sénateurs républicains présentent un projet de loi qui reprend des annonces de la Maison-Blanche fin janvier. D'abord, naturaliser 1,8 million de Dreamers, ces jeunes arrivés illégalement aux États-Unis avec leurs parents, dans un processus qui doit durer 10 à 12 ans. C'est une concession à la minorité démocrate qui souhaite la régularisation des 690 000 Dreamers officiellement enregistrés. Le programme qui les protégeait de la déportation a été abrogé par M. Trump. Le président américain a donné au Congrès jusqu'au 5 mars pour légiférer de manière définitive, même si un juge fédéral a suspendu la décision et la Cour suprême a été appelée à trancher. En contrepartie, les républicains veulent le financement de la construction du mur et une forte baisse de l'immigration légale, dont l'abrogation de la loterie de cartes vertes. Une demande qui irrite les démocrates. Le texte final doit être approuvé par une majorité de 60 sénateurs sur 100. Même si un texte est voté au Sénat, c'est beaucoup moins sûr à la Chambre des représentants où une faction républicaine radicale veut une politique encore plus restrictive.
Et pour terminer, 4 survivants de massacre au Liberia ont déposé un recours aux États-Unis hier contre l'homme qu'ils accusent d'en être responsable. Ils accusent le colonel Moses Thomas d'avoir commandé l'unité qui a dirigé cette tuerie. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.